voir cet événement où la révolution a commencé. La révolution de l'amour et de la nouvelle vie a commencé quand ton fils est sorti du tombeau. C'est toi qui l'as sorti de là. Et maintenant, nous vivons avec lui et en lui et lui à l'intérieur de nous. Oh, un grand merci, Seigneur. Alors, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs pour être sensibles à ta parole dans la Bible, mais aussi ce que l'Esprit-Saint dit à chacun de nous par rapport à peut-être tes instructions, tes consolations, tes petits mots ou tes grandes instructions pour nos vies et pour notre Église. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais lire un texte. Donc, pas de PowerPoint. Vous comprenez que je n'avais pas d'électricité toute la semaine, depuis mercredi. Et donc, l'horaire, avec le manque d'électricité, avec les tâches imprévues. On va improviser un petit peu. Il n'y aura pas de PowerPoint, mais si le Saint-Esprit est avec moi, ça va super bien se passer, d'accord? On a pleine confiance. Marc 16, versets 1 à 8. Donc, si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez tourner à Marc chapitre 16. Et je vais juste lire les 8 premiers versets. Marc 16, à partir du verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? » Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui avait été très grande avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. » Yeah, ouais. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Amen. C'est intéressant. Au départ, c'était la catastrophe. Elles avaient décidé qu'elles n'allaient rien dire, mais finalement, elles ont parlé, heureusement, parce que ça a déclenché toute une affaire. Les pannes de courant. Donc, on a vécu une panne de courant. En anglais, on dit une panne de pouvoir. Power outage, ou en tout cas, je trouve ça intéressant parce que c'est le pouvoir. L'électricité dans notre vie nous donne beaucoup de pouvoirs différents pour faire des choses. Combien ont été affectés par la panne d'électricité par rapport à leur téléphone? Qui a été affecté? Un grand nombre, oui. Pas juste les téléphones comme de l'ancien temps qui sont alimentés par l'électricité, mais même le réseau cellulaire. Qui a été déboussolé parce qu'on voulait allumer les lumières puis on pouvait pas? Qui au début était déboussolé? Moi, oui. J'arrêtais pas de flipper les switches. J'ai même branché une chaufferette électrique. Le courant électrique nous donne le pouvoir de faire beaucoup de choses. Et tout d'un coup, sans courant, beaucoup de nos actions, beaucoup de projets sont en pause. La réunion des anciens, on l'a mis en pause, on l'a reportée. Beaucoup de courses reportées, des rendez-vous. Qui c'est qui voulait... Y a-t-il quelqu'un qui voulait regarder un film qui n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas d'électricité? Y a-t-il quelqu'un que... Le hockey? Oui, alors, et ça, c'est une autre source de pouvoir. On n'a pas d'électricité, mais heureusement, avec des génératrices, avec l'essence, on... Oui, oui. Louise, qu'est-ce qui est arrivé chez vous? Oui. Oui, même ça affecte notre vie spirituelle, notre vie d'église. On a annulé notre temps spécial de Vendredi Saint. Et alors, chose intéressante, certains l'ont su, Hydro-Québec nous a dit pas d'électricité à la corde, à l'adresse de la corde. On est venu pareil pour voir si on pouvait aider le monde. Et il y en avait de l'électricité. On aurait pu se réunir. Il faisait chaud ici vendredi soir. Mais c'était trop tard. Ah là là, les pannes d'électricité causent aussi de l'inconfort. Qui a vécu de l'inconfort cette fin de semaine? Quand même, oui. Il y en a plus que d'autres. Il y en a que on voulait se laver, on ne pouvait pas se laver. Il y en a que on voulait manger chaud, puis on a mangé froid. Et la noirceur aussi. Il y en a-tu qui ont utilisé des chandelles? Oui. Bien, je dis « ont utilisé », mais il y en a qui n'ont toujours pas d'électricité chez eux. C'est... Oh, wow! Laval, Beaconsfield, aïe! Oui, oui, oui. Nous sommes avec vous en prière. L'isolement, on ne peut pas communiquer, peut amener de l'inquiétude et même de la peur. Et voilà qu'est-ce qui est arrivé à la gang de Jésus, ce que moi je vais appeler dans ce message le mouvement Jésus. Ça, c'est Jésus, il a recruté des disciples, des amis, des gens qui ont accepté de le suivre. Et ils ont, pendant 3 ans, ils ont fait du ministère ensemble. Mais il y a eu une panne d'électricité spirituelle dans ce mouvement-là. Pas au début. Au début, ça regardait super bien, le mouvement Jésus. 3 ans de ministère avec des impacts remarquables, des guérisons, des miracles, des délivrances de puissances démoniaques. Jésus n'arrêtait pas d'impressionner, de surprendre, et les gens se convertissaient, mais dans le sens, tout d'un coup, ils avaient la foi en Dieu. Et ils voyaient en Jésus celui qui était envoyé par Dieu, l'espoir du monde. Et ils se repentaient de leurs péchés et ils se mettaient à le suivre. C'était puissant. Et même, il y avait des opposants qui venaient pour clencher Jésus. Mais c'est eux qui se faisaient clencher par lui. Wow! Et ils montaient en popularité. C'était au point où, à plus d'une reprise... Les gens autour de lui ont dit hey, « on va l'introniser roi tout de suite. » Mais lui a dit non à chaque fois. Et vers la fin de ces 3 ans-là, il y a des signes de panne électrique qui commençaient à se manifester. Des panne électrique, panne de pouvoir, mais disons, ça c'est le terme anglophone que je traduis. Jésus prend un chemin qui a surpris, qui a déçu ses amis. Il a pris un chemin qu'il a décidé de prendre et celui de la dépendance totale sur l'action de Dieu. Et surtout vers la fin, quand la tension monte, quand les opposants s'organisent contre lui, il a décidé... je vais renoncer au pouvoir divin auquel j'ai accès parce que je suis quand même le fils de Dieu. J'y renonce, sauf pour certains moments bien précis pour guérir un malade ou autre. Mais sinon, il dit, non, moi, je vais vivre comme un humain fidèle à mon Papa Céleste et je vais lui faire confiance à lui qu'il intervienne quand lui décidera. Il ne prenait pas de raccourcis. Il n'a pas fait appel à la violence. À un moment donné, quand c'était hyper tendu, Pierre sort son épée et même il frappe avec son épée et Jésus lui dit non, c'est pas de même. C'est pas de même que je veux faire face à la panne de courant. Et pourquoi a-t-il choisi de terminer, en fait, de vivre son ministère comme ça? En fait, il voulait nous montrer à nous, les humains, enfin, il était humain, mais ses frères et sœurs humains, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de marcher avec Dieu qui était totalement dans la confiance en Dieu, la soumission à sa volonté et oui, la confiance. Je vais lire un texte maintenant dans Philippiens chapitre 2 qui décrit cette attitude que lui a vécue dans un sens à notre place, mais aussi pour nous donner un exemple. Philippiens 2, et j'aurais bien aimé le mettre à l'écran, mais ça ne sera pas possible aujourd'hui. Philippiens 2, à partir du verset 5. Vous voyez que la manière que l'auteur de Philippiens, Paul ici, nous en parle, c'est pas juste admirons Jésus, c'est aussi marchons de la même manière que lui, imitons-le. Il dit aux chrétiens de cette église-là, donc à nous aussi, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. C'est comme s'il n'a pas cherché, quand il marchait parmi nous, à comme prouver, à défendre le fait qu'il était de condition divine. Parce que, comme on a vu, il n'a pas été traité comme le Fils de Dieu, loin de là. Mais à la place, il s'est dépouillé. Là, je suis rendu au verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Enfin, ça continue, mais là, donc Dieu l'a ressuscité, l'a intronisé, parce qu'il a vraiment fait ce qu'il fallait faire pour ouvrir le nouveau chemin. Et vous connaissez l'histoire. Il a obéi, il s'est soumis, il fut le serviteur de Dieu et donc de nous tous. Finalement, il y a eu ce complot. Un de ses disciples était impliqué. Il a été arrêté, condamné, torturé, exécuté, enterré. Pardon, est-ce qu'il...
Judas?
Exactement. Ça, c'est celui qui a participé au complot. Judas qui était à l'intérieur du groupe, donc il pouvait dire à la police du temple, il serait où, quand, où il n'y aurait pas de témoins, sauf les autres disciples. Vraiment triste. Donc, panne totale, panne de pouvoir ou de courant total dans la vie de Jésus, dans le mouvement Jésus. Et ses disciples, ils ont froid, ils ont peur, ils s'isolent. Hein? On voit qu'ils se mettent dans un endroit avec les portes barrées. Et il n'y avait pas de cellulaire dans ce temps-là. Puis même s'il y en avait, je pense qu'ils auraient fermé leur téléphone. Et découragement, peur. On voit ça dans l'histoire des trois femmes qui sont allées au tombeau. Dans le texte que j'ai lu tantôt, que nous avons lu, il y avait plusieurs mots reliés à la peur. On a vu le mot « effrayé », on a vu le mot « bouleversé », on a vu le mot « épouvanté », puis on a vu les mots « elles avaient peur ». Il m'en manque peut-être un ou deux, là. Puis aussi, il y a ce sentiment d'impuissance. On veut embaumer le corps, mais comment est-ce qu'on va faire une grosse pierre devant la tombe? Qui va la rouler pour nous? Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un secret dans la Bible. Un secret qui traverse toute la Bible, c'est que quand il y a des pannes de courant, c'est un moment préféré pour Dieu d'agir, puis de venir, puis de se manifester. Quand il y a des pannes de courant comme ça, quand rien n'est possible, le Dieu de l'impossible intervient. Amen. On le voit depuis le début de la Bible et jusqu'à la fin. C'est ce Dieu-là qui est le Dieu qui se manifeste à la résurrection. Dans une panne électrique, là je reviens à la panne électrique qu'on a vécue, la seule chose à faire, au fond, t'attends que Hydro-Québec fasse sa job. Qui a perdu complètement confiance que Hydro-Québec va rétablir le courant? Est-ce que Beaconsfield, vous gardez espoir?
Okay.
Est-ce qu'on applaudit Beaconsfield? Okay. Oui, oui. Alors, je pense que, en tout cas, ce qui me concerne, j'avais confiance, j'étais irrité. On peut critiquer peut-être des décisions qui ont été prises par l'Hydro-Québec de comment ils ont installé le réseau et tout ça. Il y en a qui disent, bien, S'il y a des tempêtes de verglas comme ça, faudrait peut-être mettre plus de fils sous la terre. C'est pas une mauvaise idée. J'y avais pas pensé avant, mais quand quelqu'un m'a dit ça, j'ai dit, c'est vrai. Il aurait dû faire ça. Mais on a gardé confiance, on a gardé espoir, et puis d'un autre côté, on se dit, c'est hors de mon contrôle, on va attendre. On va attendre. Maintenant, quand on doit être patient comme ça, on s'encourage les uns les autres dans l'attente et dans l'espoir. Qu'est-ce que vous avez fait dans vos familles pour garder le moral en attendant? Chez Corinne et Ryan, qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous chanté des chansons ou non? Pas de chant. Est-ce que vous avez joué à des jeux ou des jeux? Des jeux, oui. Ou à la chandelle, c'est ça. C'est ça. On fait notre possible pour garder courage. Et en fait, dans l'histoire de Jésus, lui a gardé espoir jusqu'au bout, même quand il a crié, « Pourquoi m'as-tu abandonné, Père? » C'est vrai que ça venait de son cœur, mais en quelque part, il ne s'est jamais révolté. Il a toujours su, Dieu va intervenir quand il va intervenir, et moi je vais obéir jusqu'au bout. Et le Dieu qui est intervenu, c'est ce Dieu qui intervient quand c'est désespéré. Je pensais à ça. Si on est ici, c'est parce que, à un moment donné, le Seigneur est venu nous chercher. Il est venu se révéler à nous. Il y en a, ça fait longtemps. Il y en a, ça fait pas longtemps. Il y en a d'autres c'est un processus, ça va venir bientôt, mais l'idée, c'est que Dieu intervient dans nos vies. Et je pense que pour un certain nombre d'entre nous, ça s'est passé dans une situation de perte de contrôle totale et même parfois de désespoir. Il y a des gens parmi nous que c'est sur leur lit d'hôpital qu'ils ont rencontré Jésus. Et d'autres, c'est en prison. Et d'autres, c'est dans un exil. Ils se retrouvent dans une autre ville, un autre pays. Et ils sont complètement déboussolés. C'est là que Jésus vient se manifester à eux. Ça, c'est le genre de Dieu qu'on a. C'est le Dieu qu'on voit dans la Bible. C'est un principe spirituel parce que c'est dans son caractère. On va le résumer comme ceci. C'est ceci qu'il faudrait retenir. Si Dieu a ressuscité Jésus, ben, nous avons espoir qu'il va agir face à toutes nos situations difficiles ou désespérées. Donc, si Dieu a ressuscité Jésus, nous avons espoir qu'il va agir face à toutes nos situations difficiles ou désespérées. Des fois, ça commence au point de départ. Jésus est venu nous sortir d'une situation désespérée et on marche avec ce Dieu-là. En réalité, ça a commencé avec Jésus lui-même. Est-ce que quelqu'un ce matin ici qui se sent dans le désespoir? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que la vie est rendue difficile? Puis des fois, tu te demandes, comment est-ce que je vais m'en sortir? Bien, Dieu veut venir à ta rencontre. Et Dieu veut faire de toi un héros de la foi, une héroïne de la foi. Le Dieu de l'impossible peut venir à toi dans le moment le plus bas. C'est ce qui est arrivé ici. La source de notre espoir, c'est justement ce Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est vraiment arrivé. Jésus a placé son espoir en son Dieu. Il est allé jusqu'à la mort. Voilà l'attitude que nous devons avoir de vraiment nous confier en Dieu et pas en nous-mêmes. On attend que ce soit Dieu qui allume l'interrupteur. C'est ça qui est arrivé il y a 2000 ans, en l'an 33, on a dit, c'était probablement l'an 33. Au milieu de la nuit, du samedi au dimanche, une switch qui s'est allumée. Quelqu'un a rétabli le courant. La pierre a été roulée. Les gardes ont été assommés, évanouis. Jésus est sorti du tombeau. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus vient, ce Jésus ressuscité, vient à la rencontre des siens, un par un. Ça, on le voit déjà dans les évangiles, tantôt une personne, tantôt une autre. Jésus vient, les rencontre, et leur vie, qui est sans courant, eh bien, lui, il vient donner un nouveau pouvoir pour une nouvelle façon de vivre. C'est ça qu'on vit à l'Oasis et qu'on veut apprendre à vivre ensemble. Je vais vous lire deux versets qui parlent de ça. C'est tout connecté, hein? Romains 8, verset 11 parle de la vie chrétienne et plutôt de pourquoi on ne perd pas espoir même quand c'est difficile. Ça dit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, Okay? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, c'est qui a ressuscité Jésus?
Dieu le Père.
Donc, l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand Jésus vient à notre rencontre et on l'invite, c'est l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous. Si cet Esprit-là qui a ressuscité Jésus habite en vous, eh bien, celui qui a ressuscité Christ rendra la vie aussi à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ça se répète un peu, mais l'idée, c'est que au fond, on vit dans l'espérance continuelle. On va ressusciter. Alors, nos problèmes sur la terre peuvent être grands, mais notre vrai problème, il est résolu déjà. On va vivre éternellement. Notre corps, qui, tranquillement, avec les années, diminue dans ses capacités, mais il va être ressuscité. Notre âme va être purifiée. Bien, elle est déjà en train d'être purifiée. Elle est déjà sanctifiée, mais ça va être merveilleux. Alors, il faut qu'on apprenne à nous réjouir pour qu'est-ce qui s'en vient. L'autre verset que je vais vous lire, c'est plus par rapport à la vie au jour le jour. 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. C'est vraiment un beau verset. Paul, ici, il avait vécu des choses vraiment difficiles et comme jamais auparavant. On pense que peut-être c'est quand il était en prison à Éphèse. Donc, c'est c'est pas la première lettre qu'il écrit aux Corinthiens, mais là, il leur écrit et dit, vraiment, là, j'ai passé comme... Je suis presque ressuscité des morts moi-même. J'étais sûr de mourir. Et j'étais tellement découragé, puis Dieu m'a remis sur mes pieds. Et il dit ceci concernant ce pouvoir, cet esprit qui habite en nous. Il dit, nous portons, il appelle ça un trésor, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Les vases de terre, c'est comme de l'argile, c'est fragile. Tu échappes un vase d'argile, il va casser. Puis il peut être craqué. Il peut être craqué avec les années, mais nous portons ce trésor de la présence de Dieu dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire qui est en nous soit attribuée à Dieu, pas à nous. OK, donc, ceux parmi nous, il y en a qui souffrent beaucoup, peut-être dans leur santé, peut-être dans leur mobilité, peut-être dans votre statut au Canada, peut-être vous venez d'arriver... Vous ne le savez pas. Vous êtes en attente d'une audience à l'immigration. Peut-être que c'est des gros problèmes financiers. Vous êtes un vase d'argile. Vous êtes un vase fragile. Mais c'est souvent les personnes les plus fragiles comme ça qui reflètent le plus la puissance de Dieu quand ils marchent dans la foi. Et c'est ça que Jésus vient faire. Quand il vient nous chercher, il nous sort du désespoir, la panne de courant, et il nous donne une nouvelle source de courant. Donc, pour conclure, juste vous rappeler, comme Suzanne et son équipe nous ont bien fait comprendre, le but de cette matinée, c'est de remercier Dieu, de le célébrer. Amen. On remercie Dieu. On va le louer. On va continuer à le louer. Et moi, en tout cas, hier, revenons à la panne d'électricité. J'ai un ami qui habite dans Snowden et lui, il a finalement eu le courant là, en après-midi hier. Désolé, Beaconsfield. Ce sera votre tour bientôt. Et il m'envoie un texto. Il dit « Merci au personnel d'Hydro-Québec. » Alors, il avait espérance. Quand à un moment donné, ils allaient réparer le réseau, il avait raison, il a eu son courant, il était reconnaissant. C'est la même chose pour nous. On est reconnaissant, on loue ce Dieu qui nous a tirés d'affaire, qui nous a redonné le courant et qui va le faire dans l'avenir. Tu peux remettre tes fardeaux, tes problèmes à Dieu ce matin. Et nous allons le remercier. On va adorer ce Dieu avec joie. S'il a ressuscité Jésus, nous savons qu'il va aussi agir dans toutes nos situations désespérées, même jusqu'à nous ressusciter, nous aussi, après notre mort. Cette puissance habite en nous. Et Jésus nous dit, vivons dans cette même attitude. C'est Paul qui... Jésus nous dit à travers Paul, ayez la même attitude. Donc, je pense aussi que dans Philippiens, il applique ça à la vie d'Église. Donc, il dit, Paul, il dit, prenez soin les uns des autres. Il dit, mettez le bien des autres, le bonheur des autres, en avant du tien. On n'est plus en compétition parce que le bonheur, c'est chacun pour soi. Non, on sait que ça s'en vient pour moi, parce que Jésus va me ressusciter. Alors, je peux vivre d'une nouvelle manière et veiller sur le bonheur des autres, le développement des autres, la gloire des autres dans l'Église. Dieu va s'occuper de moi. Hein? Il y a ce verset aussi qui dit, « Il va m'élever au temps convenable. Hein? » Vous vous souvenez de ce verset? Soumettez-vous sous la puissante main de Dieu. Il va vous élever au temps convenable. Marchons dans cet esprit.